Salut, vous êtes dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30 pour ceux qui ont un autre mode de vie, voilà, plusieurs écoutes. Et puis on va commencer cette émission sans plus attendre et on va commencer par présenter les copains qui sont là. Alors d'abord, honneur aux invités, il y a Ulysse Dumur qui est là.
Salut.
Il y a Hugo Dumur aussi.
Salut.
Voilà, Dumur, le mur, c'est le mouvement universitaire de résistance, on va en parler dans l'émission. Et puis il y a comme d'hab, la grosse équipe au complète. Oula, petit pop microphonique, mais ça va, ça se passe en début d'émission. Il y a Raph qui est là.
Salut.
Meto.
Salut.
Yamado.
Salut.
Il y a Maté Flingue, Olive et Mouloud à la technique.
Ouais, on est là.
Ben bonjour tout le monde.
Ouais, salut.
Voilà, et puis il y a Théos aussi qui est pas loin. Et puis il y a Alexis qui arrive aussi, voilà, du mur, qui est là et qu'on salue bien. Voilà, donc je vais vous donner le sommaire de cette émission. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va revenir sur un crime raciste et sécuritaire, le troisième comptabilisé depuis le début de l'année 2012, pour ceux dont on a parlé. C'est l'histoire d'Amin Bentounsi, donc, qui a été tué par la police le 21 avril dernier, tué d'une balle dans le dos. Et donc on reviendra avec du son qui a été pris à la manifestation, la marche pour Amin, qui a eu lieu samedi dernier à Noisy-le-Sec, et on en reparlera assez longuement. On reviendra en deuxième partie aussi sur ce qui s'est passé à l'université Paris 8 Saint-Denis ces derniers jours, et notamment avec les invités qui sont là, les membres du mouvement universitaire de résistance, qui nous expliqueront un peu tout ça. Et en fin d'émission, bien sûr, on se fera une rubrique FAF, et je vous en donne pas le thème, comme ça vous écouterez jusqu'au bout, enfin on l'espère. Voilà, et puis avant de commencer cette émission, on va tranquillement s'écouter du gros son. On va commencer par Le Chemin est long. C'est un morceau extrait du dernier album de La Rumeur. Tout brûle déjà. On écoute ça tout de suite au fond près du radiateur.
Que veulent-ils au fond? Ont-ils plus d'esprit que des pieds de guenon? Y a-t-il un coin d'air frais qu'ils n'ont pas piétiné? Reste-t-il une insulte qu'ils n'aient pas aboyée? Le bout de chair rose qui remue entre leurs dents leur sert-il à autre chose qu'à nommer noir le blanc? Qu'à vomir du gitan ou des chapelets musulmans? Qu'à faire de la peur nos émoluments? Qu'à baptiser de leur cul d'horribles monuments? Qu'à s'accrocher au trône comme à une vache en diamant? De quel nouveau haillon vont-ils habiller les tours? Quel tapis de paille nous garde-t-il pour l'amour? De quel genre de frissons peuvent-ils être remplis quand ils étouffent la mort de Hakim Hajimi, Wissam El Yamni, Abdel El Jabri, Duke Luigi ou Jamal Germaoui? Ont-ils une idée de ce que ça coûte à l'âme de fuir sa terre sous la poussée des flammes? De revoir une photo comme on revit un drame dans la chambre aveugle d'un foyer sans femme? Ce qu'ils nous cachent encore, ce qu'ils nous montreront, eux ou d'autres parangons de raison. Ce que nous acceptons, ce que nous refuserons, le chemin est long. Rêve ces gnomes quand ils lancent en Afrique des puits d'uranium, paraît-il démocratique? Est-ce les embruns des docks ou des hydrocarbures qui les font si ivres aux tables des dictatures? Combien d'hécatombes sont-ils prêts à signer dans les sables arabes des non-alignés? Combien de planches à billets faut-il faire crier pour que marche un empire sur des têtes sciées? De quelle nécrophilie sont-ils le symptôme? De quel cimetière réveille les fantômes? Savent-ils tendre le bras en ouvrant la paume? Savent-ils qui nous sommes? Savent-ils ce qu'est un homme? Ce qu'ils nous cachent encore, ce qu'ils nous montreront. Eux ou d'autres parangons de raison. Ce que nous acceptons, ce que nous refuserons. Le chemin est long. Ce qu'ils nous cachent encore, ce qu'ils nous montreront. Eux ou d'autres parangons de raison. Ce que nous acceptons, ce que nous refuserons. Le chemin est long.
Le chemin est long, le groupe c'est La Rumeur et l'album c'est Tout Brûle Déjà. Vous êtes bien dans l'émission Au Fond Près du Radiateur sur 106.3 FM. Je vous rappelle les quelques adresses utiles si vous voulez nous contacter ou alors même télécharger les émissions, les réécouter, c'est le www.aufondprèsduradiateur.fr et l'adresse mail au fond près du radiateur en minuscule en attaché sans accent @no-log.org. Voilà. Et puis bah, on commence cette émission et on va parler donc d'Amine, dont on a déjà un peu parlé la semaine dernière en évoquant surtout la mobilisation policière qui était quand même ultra déplacée à notre goût, voilà, compte tenu des événements et donc dont on va reparler un peu aujourd'hui. Mais surtout on voulait revenir sur Amine Bentounsi, donc, qui a été tué froidement d'une balle dans le dos par la police le 21 avril dernier et donc à Noisy-le-Sec lors d'un cambriolage soi-disant. Donc les seuls faits qu'on a pu trouver, c'est qui ont été rapportés, c'est par la presse officielle, la presse bourgeoise. Donc on ne sait pas voilà très bien le contexte du décès est encore très flou et puis on ne sait pas si ces informations vont sortir un jour. En tout cas voilà, ce serait lors d'un cambriolage qu'il a été attrapé par les flics et donc soi-disant il aurait sorti une arme. Je dis bien soi-disant puisque on va le voir après, d'après les témoignages des proches de ce jeune homme, il n'avait pas cette tendance à pointer une arme face à des gens. Enfin bon, on verra bien. Mais voilà, il aurait sorti une arme, il aurait lancé une grenade sur les forces de l'ordre et c'est ce qui les aurait amenés à riposter et donc à tuer ce jeune homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le policier qui a tiré cette balle a été incriminé donc par la justice. Il est accusé d'avoir d'homicide volontaire. Voilà, c'est le chef d'inculpation donc donné par la juge pour ce policier. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est une première en France hein, sous la Ve République. Il n'y a jamais eu un flic pour ce qu'on appelle très couramment des bavures, ce qu'on appelle moins couramment des crimes. Puisqu'il y en a de plus en plus et souvent on peut noter une certaine préméditation. C'est une première donc que de voir un flic inculpé d'homicide volontaire. Et vous avez pu le voir à la télé, dans les journaux, a conduit à donc une manif, plusieurs manifs de soutien appelées par les syndicats de police, Alliance, SGP, Unité Police, voilà, tout ce genre de personnes qui ont repris donc en cœur le mot solidarité envers cet homme qui a assassiné Amine Bentounsi. On verra aussi par la suite que ce mouvement a pris d'autres formes maintenant et qu'il s'est étendu à d'autres types de revendications. En tout cas, le 11 mai, c'est le syndicat Alliance qui avait appelé donc à cette journée de mobilisation nationale devant toutes les préfectures et qui réclamait donc le principe de présomption de légitime défense. Voilà, le principe de présomption de légitime défense pour la police, c'est comme accréditer un permis de tuer aux gens qui portent l'uniforme. Hein. Ça veut dire que maintenant, on devra prouver que le policier n'était pas en état de légitime défense. C'est-à-dire, on devra prouver véritablement, et quand on sait... le flou, l'obscurité qui entoure les contextes justement des interpellations et des violences qui sont faites à des personnes, et ben on sait à quel point voilà cette présomption d'innocence veut dire bien plus que ça. Et voilà, on le répète, hein, c'est presque délivrer un permis de tuer à ces gens qui portent des armes et qui des fois se comportent même souvent comme des cow-boys. Bref. Il y a eu cette mobilisation des keufs, mais en parallèle, il y a quand même eu une mobilisation en soutien à la famille, avec les proches, avec des gens qui étaient venus. C'était à Noisy-le-Sec, le premier rassemblement, c'était le samedi 5 mai. Il y a pu avoir du son qui a été rapporté par les camarades de l'Actu des Luttes, qui a été diffusé dans la semaine sur cette antenne. Il y en a eu un deuxième, c'était le samedi 12 mai, donc toujours à Noisy-le-Sec, où des camarades de l'émission Au fond près du radiateur étaient présents et ont pu un peu écouter ce qui s'y disait. Voilà, on va tranquillement écouter ce reportage et on reviendra après au fond près du radiateur.
Donc pour nous, c'est très important d'être là parce que mon petit frère a été abattu d'une balle dans le dos et on a envie de nous dire le contraire. Aujourd'hui, on dit non, non au permis de tuer, non plus jamais de petit frère qu'on assassine. J'insiste sur le mot assassine. Il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois dans la République française qu'il y a un chef d'inculpation, que l'homicide volontaire envers un policier, et ça c'est très important. Et je remercie la justice d'avoir été aussi indépendante dans ce dossier malgré les pressions qu'elle a pu avoir des syndicats. Donc aujourd'hui, c'est mon petit frère qu'on a assassiné. Mais demain, ça peut être n'importe quel petit frère. J'ai comptabilisé les morts de 2005 à 2012. Pour 2012, on est à 3 morts. En tout, il y a eu 74 morts. 74 morts et des policiers qui n'ont jamais été jugés. Et ça, c'est grave, il faut que ça change. Et non, au permis de tuer. Donc là, je vous invite symboliquement à faire le trajet de mon petit frère lors de son interpellation, le trajet qu'il a fait et jusqu'au lieu de là où il a été abattu. Donc symboliquement, on va lâcher des ballons pour dire que justice soit faite et que mon petit frère, on t'aime. Voilà. Et plus jamais ça. Merci. Merci en tous les cas.
Que justice soit faite.
Mon petit frère est tombé sous la balle d'un policier, donc il lui a tiré une balle dans le dos. Donc voilà, donc là on distingue
une tache
de sang. Et voilà, c'est très important pour nous d'être là. Et je remercie encore tous les gens pour nous soutenir. Et c'est très important, donc comme je le dis et je le répète, aujourd'hui c'est ce petit frère qu'on assassine. Demain ça peut être le petit frère de n'importe qui. Et je dis stop aux bavures et qu'on arrête de couvrir des policiers assassins, qu'on arrête de leur donner des autorisations et non à cette réforme de présomption de légitime défense.
Donc, faut pas oublier que c'est un papa qui a été tué d'une petite fille de 6 ans qui n'avait qu'un seul rêve ces deux dernières années, c'est que son papa vienne la chercher à l'école. Et malheureusement, elle n'aura jamais la chance de voir son papa venir la chercher à l'école. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'Amine était un compagnon très protecteur, un être humain gentil, très doux, et un papa très aimant, qui aimait sa petite fille, et qui ces deux dernières années a dormi avec le dernier gilet qu'on lui a laissé, de sa petite fille, voilà. Et il ne l'a pas vu.
Un homme qui a été assassiné.
Et j'espère que moi qui est française, qui a été avec Amine plus de 10 ans de ma vie, je l'ai connu, j'avais 13 ans, il m'a protégée de la vie. Et voilà, j'ai vécu ces dernières années sans lui, j'étais un peu perdue, mais heureusement j'ai eu la chance de grandir avec des bonnes instructions et avec la dureté d'Amine, et j'en suis très fière. Et aujourd'hui, c'est moi qui élève sa petite fille et j'espère pouvoir l'élever tel que lui aurait voulu que je l'élève. Voilà.
Bravo.
Faites
notre justice pour Amine.
Il y a aussi quelque chose de très important que je viens d'apprendre aujourd'hui en faisant un petit peu, en allant voir les gens, leur poser des questions. Il y a quelque chose qui est très important. Ce soir-là, où mon frère a été assassiné, il y a des gens qui ont filmé. Et dont la police a pris les portables et a effacé ces vidéos. Et ça, on a un témoin, d'accord ? Une dame, une voisine ici, qui j'espère aura le courage de témoigner et de dire ce qu'elle m'a confié. Donc, voilà. Donc, si on efface des vidéos, c'est qu'il y a une raison. Donc, aujourd'hui, je fais aussi un appel encore à témoins. Quiconque, le samedi 21 avril, a vu quelque chose, il était aux alentours des 20h30, a vu quelque chose, a entendu, a filmé, qu'il se manifeste. Parce que c'est très important pour nous d'avoir la vérité et que mon frère ne soit pas mort pour rien. Qu'il vienne nous voir, il y a notre avocat ou qu'il s'adresse à la police des polices à Paris dans le 12e. Et c'est très important de savoir la vérité. Mon frère a été abattu comme un chien et c'est un être humain. Alors quand je vois ces policiers qui manifestent, je trouve ça inadmissible, choquant et irrespectueux vis-à-vis de nous, la famille. On est en deuil et qu'on ne nous respecte pas et qu'on soutienne un criminel.
Un assassin.
Voilà, que justice soit faite.
Que justice
faut la reconnaître.
Et les bavures, faut savoir les reconnaître. Quand il y a des brebis galeuses
dans la police, dans il faut la reconnaître.
Et il faut pas les soutenir. Et il faut pas les soutenir. Surtout pas.
En prison.
Et ce que je demande aussi, et ça, peut-être qu'un jour ça viendra, puisque dans l'année entre 2005 et 2012, il y a eu 74 morts, dont mon frère. Je vous cite les trois derniers. Donc, Amine Bentounsi, le 21 avril 2012, a été assassiné d'une balle dans le dos. Le 10 janvier 2012, décès de Wissam El Yamni, 30 ans, tombé dans le coma depuis son interpellation. La nuit de la Saint-Sylvestre à Clermont-Ferrand. Il faut savoir que cette personne-là aussi donc, est morte à la suite de blessures par 27 policiers. Et que cette personne-là, la famille n'a même pas pu faire le deuil, n'a même pas pu l'enterrer. Parce que j'ai eu son frère au téléphone et qui m'expliquait que son frère est encore au funérarium et qu'ils attendent encore des autopsies. Donc il faut vraiment que la justice, elle avance dans ce sens et pour que plus jamais il y ait de petits frères qu'on assassine. 11 janvier 2012, Abdel, 25 ans, meurt à Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, d'une crise cardiaque lors d'un contrôle. Pour les autres années, 2011, au moins 10 morts connus. En 2010, 9 morts et au moins 4 blessés connus. 2009, 5 morts et au moins 5 blessés. En 2008, 11 morts et au moins 7 blessés. 2007, 19 morts et 2 blessés. 2006, 10 morts, 7 blessés. 6 morts en 2005 et 3 blessés graves. On va où comme ça? On va continuer jusqu'à où comme ça? Donc ça voudrait dire que demain, sous prétexte qu'on ait un casier judiciaire, qu'on n'ait pas le faciès, qu'on a le droit de se prendre une balle dans le dos, est-ce que c'est ça la République française? Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est ça les droits de l'homme? Non. Non, c'est pas ça. Donc que justice soit faite pour que plus jamais de petits frères, plus jamais qu'on assassine.
Et non à la présomption d'innocence?
Non, non à cette réforme de présomption de légitime défense.
Non, au droit de tuer?
Non, au droit de tuer. Merci beaucoup.
Vos faux témoignages.
Que justice soit faite. Je vous propose de lâcher les ballons symboliquement pour mon petit frère qui doit être là et qui
lâche
doit.
Les ballons, lâche
voilà,
les
on lâche les ballons. Ouais, Amine, on t'aime. Voilà, c'est symbolique, mais c'est important de le faire.
On les laisse accrocher, comme ça, ils les voient bien, les gens.
Oui, oui, c'est là qu'ils les laissent accrocher, ouais.
Donc
ça y a
un impact
pour la tête des gens. Ça.
Hein? Moi je suis remontée là.
Merci. Soit faite, que justice 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 soit faite.
Le discours de la police. a complètement changé par rapport à... apparemment, là, c'est des revendications qu'ils font et c'est plus un soutien à leurs collègues. Donc là, on en parle un peu moins de leur soutien de leurs collègues. Donc, parce que là, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une grosse boulette, pour le coup, dans le jargon de la police, ce qu'ils appellent une boulette. Donc là, pour le coup, c'est une grosse boulette. Et sincèrement, s'il le faut, à chaque fois qu'il y aura une manifestation de policiers, des syndicats, eh ben nous aussi. Parce qu'aujourd'hui, on nous considère comme des chiens. On nous appelle la racaille. La racaille, le terme de la racaille qui a été utilisé par notre cher président, M. Sarkozy.
Ex-président.
Ex-président, M. Sarkozy.
Je n'ai pas entendu Hollande dire que c'est faux. Hein.
Oui, mais moi, ce que je vous inviterais à faire la prochaine fois, les amis, hein, la racaille, comme ils nous appellent, la racaille, il faudra sortir vos pièces d'identité françaises, les amis. Ouais. Si vous les avez sur vous, vous pouvez les sortir pour dire « Oui, on est des Français, on est de la racaille. » C'est le terme, c'est l'insulte. C'est l'insulte qu'ils utilisent pour définir les jeunes de banlieue, d'accord ? Et dans les jeunes de banlieue, il n'y a pas que des voyous. Il y a plein de choses dans les jeunes de banlieue. Donc, qu'on arrête de nous appeler de la racaille. D'accord ? Parce qu'on n'est pas de la racaille. Et la racaille, elle a une carte d'identité française. Et si au jour d'aujourd'hui, ils ne nous considèrent pas comme des Français, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dites-moi. Dites-moi. Donc, la prochaine manifestation, je vous en supplie, apportez tous votre carte d'identité française. D'accord ? Et qu'on arrête de nous dénigrer, de nous montrer du doigt, parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
On était là ce soir, même si on n'est pas forcément nombreux, mais voilà. Petit à petit, j'ai envie que toutes les associations, tous les collectifs, des citoyens qui ont été touchés de près ou de loin par la mort d'un proche, qui se manifestent et qui viennent vers nous pour nous soutenir. Parce qu'aujourd'hui, la police veut un permis de tuer et ça, moi, je dis non. Non, parce que non, parce que demain... N'importe quel petit frère, n'importe quel citoyen, demain, moi, je sors mon portable devant un policier qui a envie de jouer le justicier, eh ben demain, sous prétexte d'une présomption, d'une réforme de présomption de légitime défense, il pourra me tirer une balle sans qu'il soit inquiété par la justice. Donc ça, c'est grave. Ça, c'est très grave.
Ce qui est encore plus grave aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a une petite fille de 6 ans dont son papa est mort, qui vient de connaître la vie, et comment lui expliquer qu'aujourd'hui son papa a été tiré dans le dos par un policier et qu'il est considéré pas comme un être humain, parce que je n'ai pas entendu une seule fois le mot être humain quand on parlait d'Amine, mais simplement d'un caïd ou d'un multirécidiviste, une petite fille de 6 ans qui va à l'école, qui a des camarades de classe et qui aujourd'hui a peur d'aller à l'école. De peur que ses copines de classe, ses camarades, lui disent « Ton papa, c'était un voyou, un multirécidiviste, et la police l'a tué, ce qui n'était pas du tout le cas. Amine, c'était un papa, c'était un fils, un frère, un ami, et un être humain surtout, avec un grand cœur. » Voilà. Et ça, c'est important.
Il n'avait pas de sang sur les mains, contrairement au policier qui l'a tué. Maintenant, le policier qui l'a tué, il a des sangs sur les mains, du sang sur les mains.
Et Amine a les mains propres, n'a jamais tué personne. J'ai assisté à tous ces jugements, que ce soit aux assises ou en correctionnel. Jamais il a eu une condamnation pour agression envers qui que ce soit. Il a eu des condamnations pour vol sans violence.
Et aujourd'hui, aujourd'hui, qu'on n'inverse pas les rôles, le procès, le vrai procès qu'on doit faire, c'est pas celui de mon petit frère. Malheureusement, les médias se sont déchaînés sur lui. Malheureusement, ils ont sali sa mémoire. Malheureusement pour toute sa famille, on en souffre aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire on rétablit la peine de mort. Ça voudrait dire que demain, cette réforme que demandent tant les syndicats de la police, ça voudrait dire que demain, on donne un permis de tuer. Et ça, c'est inadmissible. Et sous prétexte qu'il ait un casier judiciaire, eh ben, on doit l'assassiner. Moi, je dis non. Non, stop aux bavures. Stop, stop. Arrêtons là.
Stop. Stop aux assassinats.
Stop.
Et stop.
Ils sont formés pour neutraliser l'être humain et pas pour le tuer à la base. Ils sont formés.
Dans les jours à venir, et je l'espère, il y aura des rebondissements dans cette affaire. Faites-moi confiance, je lâcherai rien. Je suis là. Il faudra me mettre aussi une balle dans le dos pour me faire taire. Et mon petit frère, il ne sera pas mort pour rien. Il ne sera pas mort pour rien. Voilà. Il va y avoir des rebondissements dans cette affaire.
C'est pas ta faute, Mouhamed.
C'est pas ta faute.
Tu n'as rien décidé. D'autres l'ont fait pour toi, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu y as été poussé.
Tu y as été poussé.
Mouha ce soir a des éclats. D'eau vague et troubles dans leur quart. Il ne parlera à personne et personne n'entendra le vacarme assourdissant des lames de couteau qui s'aiguisent en crissant dans le fond noir de son cerveau. Mouha est en chute libre. Rien ne vibre entre les quatre sales murs d'une cellule en craquelure qui se moque de ses brûlures et la tête dans le creux des mains. C'est lui-même qu'il maudit et maudira encore demain, car rien ne caresse la vie. Quand à la fleur de tes 20 ans, y a dans le cœur un clou qui vrille, qui te remplit du sentiment de n'avoir rien pour toi qui brille, à part la culpabilité de faire couler les larmes de ton vieux père épuisé. C'est pas ta faute, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu n'as rien décidé. D'autres l'ont fait pour toi, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu y as été poussé.
Tu y as été poussé.
C'est pas ta faute, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu n'as rien décidé, d'autres l'ont fait pour toi, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu y as été poussé.
Tu y as été poussé.
Et il faut dire que bien souvent, tu passais le temps à la recherche de pansements à appliquer sur tes larges plaies, vives ou à peine cicatrisées. Et il faut dire qu'on t'a appris à redouter tes propres gestes, à peindre en gris ton nom banni et ton perso dont il ne reste que des étoffes traditionnelles, fouettées de mépris à un point tel qu'elles ont honte de leur couleur. Et toi ce soir, tu payes encore après avoir goûté au tort de ne pas être né où il fallait. Et c'est pas faute d'avoir voulu lever l'encre qui te retient, toi et les tiens. Et c'est pas faute d'avoir voulu prendre ta revanche sur toutes ces cases où on enferme les yeux des cancres. Et c'est pas faute d'avoir voulu au moins une fois te sentir beau de cette foutue saloperie de rue. Seulement voilà, les seules armes qu'on t'a laissées étaient en fait empoisonnées. Et la justice t'a rattrapé, elle t'attendait sur ce chemin qu'elle a tracé pour les récalcitrants de ton espèce. Et d'un coup de plume, elle le disperse pour des années et des années, cette folle ivresse d'échapper à ce ciel terne qui suce tes veines. C'est pas ta faute, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu n'as rien décidé, d'autres l'ont fait pour toi, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu y as été poussé.
Tu y as été poussé.
C'est pas ta faute, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu n'as rien décidé. D'autres l'ont fait pour toi, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu y as été poussé.
Tu y as été poussé.
C'est pas ta faute, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu n'as rien décidé. D'autres l'ont fait pour toi, Mouha.
C'est pas ta faute.
Tu y as été poussé.
Tu y as été
poussé. C'est pas ta faute, Mouha.
Amine, il voulait être libre, mais c'est vrai que c'est difficile. Difficile quand, à 13 ans, on vous a catalogué de premier jeune prisonnier de France. Un triste record, malheureusement. Eh bien, en tout et pour tout, il a dû faire 15 ans de prison, à peu près. 14 ans. Voilà. On lui a jamais fait de cadeau. Moi, quand je ressortais des plaidoiries, quand j'entendais dire... Non, on peut pas le remettre en liberté, il faut l'enfermer. Oui, mais l'enfermer, c'est le tuer, ils l'ont tué,
Ils l'ont tué à petit feu. Et Amine, ses yeux, ses, on peut voir cette tristesse qu'il avait au fond de lui. On peut voir tout ça. Et ils l'ont assassiné à petit feu. Donc moi, j'avais commencé à écrire un bouquin sur lui, puisque mon petit frère, quand il m'appelait le soir, quand il avait rien à faire en prison forcément, donc il m'appelait le soir, il me racontait, et donc à un moment on n'avait plus rien à se dire, et là il me disait, bah écoute, tu sais quoi, il me dit, je vais te dire comment ça a commencé, je vais te raconter mon histoire, il me dit, tu vas comprendre, il me dit, prends note, et je m'en souviendrai toujours puisque c'était en 2009, et il me disait, prends note, il me dit, parce que le Amine que tu vois là, c'est eux qui m'ont fait, c'est à cause d'eux, c'est pas moi, c'est cette violence que j'ai en moi, cette haine, cette rage, c'est à cause d'eux. Quelque part, c'est un échec, mais c'est un échec de la société, donc que de l'avoir mis en prison à l'âge de 13 ans. Pour moi, il y a une injustice quelque part, parce que avoir mis mon petit frère à 13 ans, c'est quelque part l'avoir envoyé au loup, quoi, l'avoir condamné. Petit frère qu'on assassine. Une boule à l'estomac, l'inquiétude d'une sœur, d'une mère chaque fois qu'il est en permission. Je culpabilise d'avoir fait le nécessaire pour sa sortie provisoire. Toujours cette angoisse. Quand je le regarde, c'est un jeune meurtri, écorché vif, qu'on a jeté au loup dès son plus jeune âge. Qu'on pointe du doigt. Aujourd'hui, Go, c'est comme ça qu'il se faisait appeler, comme pour oublier un passé incognito. Sa vie, c'est la prison. Ses amis, ce qu'il a appris, c'est en prison. Comment peut-on penser qu'après tant d'années, après avoir été broyé par ce système carcéral, qu'on puisse ressortir de là sans séquelles ? Et qu'en plus de sa peine initiale, on le prive de son droit de voir sa famille, en lui interdisant de venir à Meaux pendant 10 ans. Dans ces cas-là, il n'y a que la famille proche qui peut encore jouer un rôle dans son projet de réinsertion. C'est une double peine qu'on lui afflige. Ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Sur son visage, c'est de la tristesse, de la fatigue physique et morale. Lui-même ne croit même plus en sa réinsertion. Il a un sentiment de fatalité. Malgré cet homme, Samir, restaurateur à Paris, qui veut bien lui donner sa chance de s'en sortir. C'est comme s'il fuyait cette réinsertion. La question, mais pourquoi tout ça ? Dans quel but ? Il n'y croit même plus. À force de l'avoir entendu dans les plaidoiries, des avocats et des juges l'ont condamné, non pas pour les faits, mais parce que c'était Amine. Cette personne, je me souviens, n'a aucune chance de réinsertion. Vous devez l'enfermer, protéger nos citoyens, l'enfermer, le tuer à petit feu, ce petit frère qu'on assassine. Il est mort debout, il est là sans être là. Il n'a plus aucun espoir en la vie. Il est devenu fataliste, abandonné de tous. Il n'a plus d'espoir. Je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces souffrances qu'il cache au plus profond de lui-même et que seules ses cernes sous ses yeux trahissent de nuit à pas dormir, à penser, à pleurer sur lui-même en laissant toujours apparaître que tout va bien, qu'il continue à vivre en étant enfermé. Aujourd'hui, samedi 26 juin, plus aucune nouvelle de mon petit frère. Une amie qui l'hébergeait lui a demandé de se trouver un autre endroit. Il n'a même pas voulu du téléphone et de la puce que je lui ai donnée, histoire qu'on puisse plus le joindre. Il m'a rendu sa pièce d'identité. Je l'ai serré très fort dans mes bras. Je l'ai accompagné à la gare du Nord. Je lui ai donné un petit peu d'argent en lui susurrant dans l'oreille et en le serrant très fort qu'il fasse attention à lui et que je l'aime. Plus de nouvelles ce matin. Je découvre tout son dossier carcéral, toutes ses photos qu'il avait dans sa cellule, comme s'il préméditait de ne pas retourner à la centrale. Depuis, l'inquiétude d'être sans nouvelles et de penser au pire. Voilà, ce petit frère qu'on assassine.
Voilà. Donc vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM. Et puis voilà, juste pour finir sur le son qu'on vient d'écouter, on comprend parfaitement qu'Amine n'était pas voilà ce qu'on pourrait appeler un enfant de cœur, mais que aujourd'hui personne mérite la mort, surtout de cette façon-là, et qu'on soit délinquant ou pas. C'est pas la question, quoi. On tire pas dans le dos sur des gens, et encore moins quand on porte un uniforme et qu'on se sent légitimé par ça. Nous, de notre côté, on essaiera de vous tenir au courant de tous les prochains rassemblements qui s'organiseront, puisque, comme vous avez pu l'entendre, personne ne compte lâcher l'affaire. Il y aura sans doute d'autres manifestations, d'autres actions. On essaiera bien sûr de continuer de diffuser le son qui émane de cette mobilisation. On vous rappelle aussi qu'il y a un précédent reportage qui existe et qui est disponible sur le site sonenlutte.net, et celui-ci arrivera dans la foulée. Tout de suite, on va s'écouter un peu de musique au fond près du radiateur. On revient juste après.
I just zone out when I'm writing. Yo, the weed is lit, it's given like an Indian gift. Passed around in a cipher till eventually you're pulling tighter. Put out the fire, blow out clouds of stress. Now's the test, who's the first to talk crazy? You cough maybe, the weed is still in your lungs. You beat your chest till that feeling would come. You're high, viewing the cipher behind your own eyes, saying stupid shit, but to others you're wise. Me, on the other hand, I zone. Find a little spot to myself till I feel I'm alone. Talk to angels with black wings, silver halos. Been with Gabriel, the messenger. I'm Hugh Hefner with long rolls in a porn show. Women with pretty toes, the dizziest hoes. Then I turn romantic, writing Sanskrit. I put all my vision that I see inside my pen. Black out, that's when I'm writing. Flows go through me right into my pen. When I'm writing, it's the artist within. When I'm writing, I'm in tune with Solomon books. When I'm writing, it's more than just a song and a hook. When I'm writing, flows go through me right into my pen. When I'm writing, it's the artist within. When I'm writing, I'm in tune with Solomon books. When I'm writing, it's more than just a song and a hook. My pen's a crayon with coloring books displaying chaos. A black seance with ink that pours out great art. Age quasars exploded where the Mayan caves are. A riches being dug from a king's graveyard. It's the inscription written on Egyptian clay jars. I write rhymes like I'm doing time. Listen, when I hit the pen, I start doing the sentence. I got the flow locked behind each bar. And if I get too wild, you could throw me in your box or your car. It's not that far. My pen's an airbrush going over your favorite sweater. My notebook leather, I write with a feather. My pages look like a Renaissance painting. Visions of St. John's conquering Satan. All made from my imagination. It's priest, lord, the bishop, a Viking. When I'm writing, writing, flows go through me right into my pen. When I'm writing, it's the artist within. When I'm writing, I'm in tune with Solomon books. When I'm writing, it's more than just a song and a hook. When I'm writing, flows go through me right into my pen. When I'm writing, it's the artist within. When I'm writing, I'm in tune with Solomon books. When I'm writing, it's more than just a song and a hook.
The way that I write is like a painting. I put on aprons and brush my ink pen across the palette. Stare at the projects till I see something, then write about it. My pads are canvas filled with anthems and words from the Black Panthers to crack scramblers to crap gamblers to gat handlers to cats in handcuffs. During life, I lock myself in the room and I write rhymes I could do a lifetime. When everything's relaxed and I'm in my right mind, I sit still for months like a monk to Buddha bless me and grant me with the wishes that I want. I walk a thesaurus with clairvoyance. I rhyme for the enjoyment, my mind voyages. Ever since the day that man evolved, scraping white chalk on candy walls. From the stone age of Neanderthals, I be writing. Flows go through me right into my pen. When I'm writing, it's the artist within. When I'm writing, I'm in tune with Solomon books. When I'm writing, it's more than just a song and a hook. When I'm writing, flows go through me right into my pen. When I'm writing, it's the artist within. When I'm writing, I'm in tune with Solomon books. When I'm writing, it's more than just a song and a hook. When I'm writing.
On vient de s'écouter Killer Priest, When I'm Writing.
Voilà, voilà, et vous êtes de retour au fond près du radiateur, tous les mardis, 19h, 20h30, rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30. Voilà, et on passe donc dans la deuxième partie de cette émission, où on va donc discuter un petit peu avec nos invités, qui sont donc Ulysse, Castro et Alexis, qui font partie d'un collectif qui s'appelle Le Mur, donc le mouvement universitaire Hugo, qui est des mouvements universitaires de résistance, et donc qui vont discuter avec nous de d'un peu des derniers événements qui sont passés à Paris 8, donc Saint-Denis, qui est une université. Et Hugo, tu vas nous présenter un petit peu ce collectif.
Exactement, exactement. Bah, bonjour à tous déjà pour commencer. Moi, je vais vous lire. Moi, je suis élu représentant. Quoi, je suis représentant élu du Mur. Donc, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi, parce qu'on vous parle de ça depuis tout à l'heure. Pour ça, je vais vous lire quelques extraits du tract qu'on a écrit à l'occasion de notre création. Alors, je vais commencer. Alors, nous sommes un collectif d'étudiants de Paris 8 rassemblés à l'occasion des élections au Conseil central de l'université. Notre parole est trop souvent ignorée ou accaparée par des représentants ayant des positions et pratiques dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas. Si siéger au Conseil est nécessaire pour comprendre les enjeux actuels et défendre notre parole, c'est toutefois par des actions que nous comptons relever notre université. Témoin des dérives de la politique menée par la présidence, par notre expérience en tant qu'élu dans divers conseils du FR et centraux, par notre vécu en tant que salarié de Paris 8 ou tout simplement en tant qu'étudiant denisien, nous nous inscrivons dans les initiatives et luttes collectives au sein de la communauté universitaire. Nous nous sommes mobilisés au travers de multiples mouvements sociaux étudiants dans notre université, contre le CPE en 2006, la loi LRU et la réforme des retraites. Si nous ne décidons pas de nous réapproprier notre université et plus largement la création, la transmission et l'utilisation du savoir, soyons sûrs que d'autres le feront à notre place. Donc là, ça va être la fin bientôt. L'université doit être un espace où des collectifs indépendants comme le nôtre peuvent se former afin de développer la vie, le mouvement social et la pensée critique qui doivent être la substance de Paris 8. Paris 8 Saint-Denis, donc, fac créée en mai 68 et qui était une fac d'étudiants salariés à la base. Quoi, de salariés étudiants plutôt, excusez-moi. J'ai bien envie de vous lire le petit proverbe qu'on a mis sur le devant du tract de Jean-Paul Sartre dans la préface de Paul Nizan à Dan Arabi. Dirigez votre rage sur ceux qui l'ont provoqué, n'essayez pas d'échapper à votre mal, cherchez ses causes et cassez-les. Voilà.
Voilà, bah, une présentation plutôt complète et tout, même avec illustration de propos et citations, c'est fourni, ça rigole trop pas. Et donc, vous, en tant que collectif, vous avez donc participé à une action la semaine dernière, dont vous allez nous parler un petit peu. Donc déjà, un petit peu, c'était quoi ce rendez-vous et puis en quoi ça consistait?
Voilà, donc c'est Ulysse du Mur également, de Paris 8, Saint-Denis, dans la place. Hein. Voilà, donc nous, à l'occasion du vendredi 11 mai, en fait, avec six organismes, on a décidé d'envahir le CA avec six organismes, des syndicats, mais notamment des étudiants et des salariés qui ne sont pas organisés. Okay. On s'est décidé à envahir le CA pour provoquer un débat, en fait, sur un point qui s'appelle le PRESS. C'est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur et qui va être créé entre notre fac et Paris 10 Nanterre. En fait, je vais vous en dire un petit peu plus sur ça. Mais donc voilà, on était réunis à cette occasion pour provoquer un débat puisque notre président, Pascal Binzac, nous donnait aucune information et aucune possibilité de débattre sur ce point-là.
C'est-à-dire que le conseil d'administration avait clairement envie de faire passer tous ces trucs en douce, quoi.
Plus ou moins. Voilà. En fait, les élus qui siégeaient, qui étaient de notre côté, donc soit contre le presse, soit pour négocier des amendements au presse ou pour le voter, mais plus tard, et les nouveaux élus, puisqu'on a eu des élections il y a très peu de temps et qu'on considère, nous, que c'est plus légitime qu'eux prennent les décisions plutôt que ceux qui vont arriver en fin de mandat dans deux semaines, on s'est dit qu'il fallait provoquer le débat que le président esquivait de toutes parts.
Ok. Et donc, par rapport à donc, ce pôle entre donc, de recherche et d'excellence, donc un petit peu entre ce qui n'est pas exactement la même chose, mais ce qui est un peu dans la même dynamique, il semblerait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus explicitement donc, en quoi ça consiste et c'est quoi sa spécificité?
Voilà, je vais vous donner des gros points alors. En gros, c'est une sorte de rassemblement entre notre fac et l'Université Paris 10, qui va faire en sorte qu'un CA va être créé au-dessus de nos deux CA, donc ce qui va centraliser encore plus les pouvoirs.
Okay.
Un CA dans lequel il y a une moins forte proportion des représentants. de la communauté universitaire, notamment étudiants. Ça va faire en sorte que nos budgets vont être mis en commun et ça va créer des ouvertures pour gérer le capital immobilier ensemble. Et le siège, notamment, il faut le préciser, est instauré à Paris. Ce qui nous fait largement penser que le mouvement de marginalisation des universités de banlieue va continuer par ça et va même rentrer d'autant plus comme ça, quoi.
Ouais, parce qu'il y aurait une espèce de centralisation du pouvoir qui serait pas sur la fac. Quand tu dis que ça va
voilà.
se marginaliser.
En fait, ce serait comme la création d'une méta-université en quelque sorte, quelque chose qui est au-dessus. Et qui aura d'autant plus de pouvoir et qui l'utilisera vraiment indépendamment de ce que nous, on va vouloir créer ou penser qui peut être plus singulier, plus lié à notre université, à ses marques politiques ou à son histoire.
Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, donc, cette tentative de débat vendredi, donc c'était le 11 mai, c'est ça ?
Ouais, c'était le vendredi 11 mai exactement. Il y avait un rendez-vous qui était donné à 14h30 pour envahir le CA qui était à 15h. Et donc on y va. On était très très désorganisés finalement. On avait vraiment pas l'air dangereux comme ça objectivement.
Joyeuse troupe quoi.
Ouais, vraiment. Quelques pancartes, quelques tracts adiffés et pas grand chose. Et on se retrouve enfermé avec le président puisqu'il propose aux gens de mandater 10 représentants. Qui porteront la parole de la masse, mais on n'était pas du tout prêt à faire ces efforts-là, quoi. On voulait chacun porter ce qu'on avait à dire, d'autant plus qu'on n'avait pas d'unité spécialement, sauf pour le débat, la création d'un débat. Et il s'opposait, lui, juste à ce qu'on parle de ça, en fait. Et donc, on y va. Finalement, des agents de la sécurité interviennent sur ordre du président très violemment. Ils se permettent de bousculer des étudiantes, des salariés de l'université. Il y en a un qui tombe, qui simule à moitié une blessure. Le président en profite pour partir, escorté de deux personnes de la sécurité. Moi, il faut préciser, puisqu'à la suite de tous ces événements, il y a eu des poursuites judiciaires, il faut préciser qu'à ce moment-là, j'étais à l'extérieur, en train de faire le guet, en quelque sorte. J'étais pas du tout dans l'action, pas du tout enfermé dans cette pièce-là. Et le président est parti s'enfermer comme un couard au PC de sécurité.
Ok, donc en fait, ce que tu décris un petit peu, c'est que vous êtes rentré dans la réunion du conseil d'administration, que plus ou moins d'abord vous avez été enfermé à l'intérieur et qu'ensuite des gens de la sécurité sont intervenus, ont créé un petit peu un mouvement tout court. Et donc par là, le président en aurait plus ou moins profité pour s'esquiver et aller se cacher, quoi.
Exactement, aller se cacher. Et une heure et demie plus tard, alors qu'il n'était absolument pas assiégé, comme lui peut le dire dans son communiqué, une heure et demie plus tard, il a appelé les keufs qui ont débarqué à notre fac, à 50. Il y avait plusieurs brigades, notamment pas mal de civils, pas mal de baqueux. Il y avait les flashballs, les gilets pare-balles. Bon, vous le connaissez, je ne vais pas vous la faire. Hein. Ils étaient là en mode opérationnel. Et c'est plutôt ça, finalement, qui a créé un attroupement, qui a fait en sorte que les gens interloqués, que ce soit les nouvelles générations qui sont venues par Paris 8, notamment par choix, parce qu'on porte encore quelque chose et qu'il y a encore des champs de liberté exploitables à l'inverse dans beaucoup d'universités françaises, mais également les anciens qui ont pu être ici à l'époque où il y avait une crèche, à l'époque où il y avait des crèches dans les services publics, et qui ont après fait le choix de faire leurs études et d'y travailler. Donc voilà, ça a interloqué tout le monde, toutes les générations, et c'est ça qui a créé un rassemblement devant le PC de sécurité. Il a réussi à s'exfiltrer.
Le président, tu veux dire ?
Le président de l'université, okay. Oui. D'ailleurs, on nous a rapporté un état où finalement il n'avait pas l'air de vraiment se contrôler à l'intérieur et il était paniqué, complètement paniqué, alors que devant ce PC de sécurité, parfois il y avait moins de 10 personnes en train d'écouter de la musique, quoi. C'était vraiment, vraiment pas hostile. Et donc, par la BAC, les complications sont arrivées. Il faut savoir que sur place, il y avait le préfet Lambert, celui qui a été...
En personne,
celui nommé par Sarkozy et promulgué, il y a une loi spéciale pour prolonger son mandat à lui, puisque à son âge, il n'a plus le droit d'être préfet. Donc c'est Sarkozy qui a fait une sorte de détournement, d'amendement spécifique d'une loi pour qu'il soit là. Et lui, il a été là, sur appel de notre président, avec le commissaire de Saint-Denis également.
Toute l'artillerie en fait qui vous ont dit. C'est pas juste différents effectifs de police, c'est différents effectifs de police et différents représentants de la hiérarchie policière aussi, quoi.
Ah bah ouais, Pascal Manzac a des à des amis dans des cercles et voilà, et président d'université, bon bah ça a du pouvoir, on le sait, c'est pour ça qu'il y a des jeux de pouvoir dans des élections ou quoi que ce soit, quoi. Et donc oui, suite à ça, il a réussi à s'exfiltrer. Il est retourné dans son bâtiment G qu'il avait préalablement fermé. Donc finalement, nous là en ce moment, on fait tourner un peu le mot, on essaie de le faire dire aux gens, c'est que c'est les salariés qui étaient séquestrés puisqu'il a fermé le bâtiment. Les gens, même à l'intérieur, ne pouvaient pas sortir, en débranchant d'ailleurs toutes les alarmes incendies, donc en dérogeant à toutes les règles les plus basiques de sécurité. Et donc il est parti là-dedans et le bâtiment a été fermé par la police. Nous, à ce moment-là, avec Hugo, en tant que nouvel élu, on part parler avec les interlocuteurs, disons, les plus sérieux qui se proposent à nous, ce qui n'était pas un énorme choix. Mais voilà, on y va, en tant notamment que salarié de l'université. Et finalement, on se retrouve, moi, je me retrouve quelques instants après, pointé du doigt par les keufs. Et là, tout a dégénéré puisqu'ils se sont décidés à choper certains étudiants.
Ok, et donc il y a eu interpellation, quoi.
Là, il y a eu violence policière,
d'abord.
Interpellation, charge. Ils ont mis des gens à terre, ils en ont balayé, traîné. Dans les gens, il faut dire qu'il y avait également beaucoup, beaucoup de salariés de l'université. Donc voilà, il y avait des dames aussi dans le tas, quoi.
Et
tu vois ce que je veux dire, des mamas, quoi.
Des gens 50 piges, 40 piges.
Voilà, et donc charge. Je me suis fait menotter dans le dos et j'ai eu l'occasion de vivre une triste expérience qui est de traverser absolument toute mon université, de part et d'autre menotté, traîné par la BAC et suivi par un sillage de gens qui voulaient essayer de me retenir de partir et qui étaient complètement violentés par la police, dépassés, quoi. Et voilà. Et donc ces événements, on s'est retrouvés plus tard au poste avec le camarade du mur. Et voilà,
parce
on a été
interpellé. Il y a eu plusieurs interpellations.
Voilà, il y a eu deux interpellations. On a été, lui, il a été inculpé au début. C'était insulte raciale envers un keuf.
Insulte raciale, ouais, c'est ça.
Bon, injure raciale.
Il aurait paru que je l'aurais traité de négro. Je sais pas, je vois le rapport que j'ai fait avec ça. C'est pas un moment, j'ai dit une phrase. J'ai dit aujourd'hui, la soumission est la norme. Des frères que jadis l'on a fouetté, aujourd'hui arborent l'uniforme. Qui est une phrase de B. James dans un son d'Enfalge, voilà. Après, ouais, il a du mal le prendre, je comprends. Mais bon, je serais mal à sa place aussi, quoi. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, toi, Ulysse, explique-toi pourquoi.
Moi, c'était en fait, c'était pour violence volontaire aggravée. Donc au début, c'était personnellement, en tout cas de moi, ce qui m'a été communiqué au commissariat, c'était contre le président. Après, on m'a dit que c'était contre le vigile, donc dans la salle où je n'étais pas. Et contre le président, bon, effectivement, j'ai suivi sa trajectoire et j'étais là, mais je ne suis jamais rentré en contact avec lui. C'était deux accusations complètement mensongères, basiques et ridicules, quoi.
D'accord. Et vous avez été interpellé. Vous êtes resté combien de temps donc, au poste?
On est resté 3 heures, pas
ouais,
plus.
Ouais, 2-3 heures. Ouais, ils n'avaient aucun chef pour nous inculper. Alors, dès qu'on est parti à la déposition, ils n'avaient pas le choix que de nous relâcher, quoi. Toi, tu as fait de la GAV quand même un petit peu au final.
Ouais, mais finalement, on a su qu'il y avait eu 2-3 appels, que ça avait fait du bruit. Et finalement, on est sorti vite fait, quoi.
Ça s'est organisé donc à l'extérieur.
Grave organisé à l'extérieur. Franchement, les gens étaient là. D'ailleurs, il y a grave des témoignages, des vidéos. On en recherche aussi à l'université. On fait des appels. Mais il y a des vidéos qui tournent. Il y en a une sur Dailymotion qui tourne. Ça me saoule de la chaise blase, mais désolé. Les mots de recherche, vous tapez presse, P-R-E-S, vous tapez Paris 8 et Paris 10 en chiffres romains et vous tomberez sur une petite vidéo explicative de 9 minutes avec des images.
Ok, ben, on va peut-être faire une petite pause musicale et puis on reviendra pour peut-être d'abord un petit commentaire tout de même.
Ouais. Je voulais dire que... le président de la fac, Pascal Benzac, là, il arrive en fin de mandat, donc c'est pour ça qu'il stresse, parce qu'il joue sa carrière, il veut devenir président de ce presse, tout ça. On en parlera après. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que là, son mandat de président à la fac se termine par une intervention policière, et qu'il avait commencé par une intervention policière aussi. Il a été élu en 2006, et en décembre 2006, il y a eu un mouvement sur Saint-Denis des sans-papiers qui cherchaient à obtenir des papiers, donc qui ont occupé plusieurs bâtiments et qui ont fini par occuper la fac de Saint-Denis pour avoir un lieu, pour s'organiser, tout ça, en croyant être en sécurité à la fac de Saint-Denis, soi-disant une fac de gauche, tout ça. Et le président de la fac avait appelé à la veille de Noël la police pour les déloger. Et donc, on a vu une troupe d'une cinquantaine de CRS débarquer à la fac, pareil. Et on s'en souvient, quoi. Ça a commencé comme ça et ça a fini comme ça.
Bah, je crois que là-dessus, on se fait une petite pause et puis on revient juste après pour continuer à discuter de tout ça au fond près du radiateur.
Noir et fier, gère dans ce territoire en guerre. Contre la phobie et la xénophobie dont ils font montre. Ils fomentent, conspirent, tirent des plans sur la comète. Leur sudité ont l'immunité pour tous les crimes qu'ils commettent. Ils promettent la perte des pommades. Ce qu'ils omettent, c'est qu'on sera là pour leur mettre les gourmettes dans leur pommette. On nous traite de salmets, répandant que les traîtres font des courbettes. Je compte plus les petits frères abattus comme des clebs dans les coursettes. J'ai l'épiderme de la poisse, d'où la douleur et l'angoisse. Les inégalités croissent, mais la république est joisse. À ça s'ajoutent les joutes verbales du 20h. Pour faire rimer, noir serait peur. Les charters ne désemplissent pas. En voyant taire monsieur Besson, je me pose la question. Au fait, la cause c'est quoi? Et pendant qu'on se bat contre l'obésité sur Paris, les frères sont réduits à manger de la terre à Haïti. On a la vaillance, la fierté, la liberté, c'est cher. Certains naissent avec toute la guerre en payant de leur chair. Comme bien meuble et vendu aux enchères. Ils préchèrent notre asservissement du haut de leur chair. La vaillance, la fierté, la liberté, c'est cher. Certains naissent avec d'autres la guerre en payant de leur chair. Considérés comme bien meuble et vendu aux enchères. Ils préchèrent notre asservissement du haut de leur chair. Le racisme, ça n'a jamais existé. Alors les moricots, veuillez cesser de persister. Égalité des peuples, j'y ai jamais assisté. Mais je peux te parler de ceux que les barbous ont blacklistés. Toujours actuel, la lutte des classes dont parlait Karl Marx. Mais où en serait-on de la ségrégation sans l'action de Rosa Parks? Sortie des plantations, en béton, on nous parque. Éternelle ostentation par les mêmes oligarques. Citoyens du monde, belle connerie. Qu'est-ce qu'a provoqué le boycott des bus de Montgomery? Pourtant, c'est pas nous qui sommes violents. Du moins, on n'a pas été les premiers. On a juste emboîté le pas aux pionniers. Marqué au père rouge, rescapé d'un enfer. Si les béquets font la misère, le NKP opère. On est sans âme et sans papier, leur sésame c'est nos terres. Tu peux devenir king comme Rodney ou comme Martin Luther. On a la vaillance, la fierté, la liberté c'est cher. Certains ne savaient d'autres la guerre en payant leur chair. Considérés comme bien meubles et vendus aux enchères. Ils préchèrent notre asservissement du haut de leur chair. La vaillance, la fierté, la liberté c'est cher. Certains ne savaient d'autres la guerre en payant leur chair. Considérés comme bien meubles vendus aux enchères. Ils préchèrent notre asservissement du haut de leur chair. Paraît-il que le peuple noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire? Sans commentaire, Mandela au purgatoire. Pendant qu'il s'exploitait hors jams et ivoire. Qui sont les gangsters? Permis fiers, point en l'air comme Tony Smith. Eux baptisèrent nouveau monde et pillèrent entre deux prières. L'archage d'un sauvage devant un public exaltant. La vie serait-elle réservée aux blancs du Ku Klux Klan? De la race de ceux qu'on opprime comme aimés. Sous ces airs civilisateurs, la France est vue piller. Les missionnaires d'hier devront plier. Car un siècle et demi plus tard, nous sommes des grenades dégoupillées. Honneur aux tirailleurs, en première ligne et sans peur, sacrifiés parce que futile fut leur couleur. Nos terres toujours sous leur joue, tu laisses erreur de croire que nos colères meurent avec nos leaders. On a la vaillance, la fierté, la liberté, c'est cher. Certains ne savaient toute la guerre en payant leur chair. Considérés comme bien meubles et vendus aux enchères. Ils préchèrent notre asservissement du haut de leur chair. La vaillance, la fierté, la liberté, c'est cher. Certains ne savaient toute la guerre en payant leur chair. Considérés comme bien meubles et vendus aux enchères. Ils préchèrent notre asservissement du haut de leur chair. On a la vaillance, la fierté, la liberté, c'est cher. Certains laissent avec toute la guerre en payant leur chair. Considérés comme bien meubles et vendus aux enchères. Ils préchèrent notre asservissement du haut de leur chair. La vaillance, la fierté, la liberté, c'est cher. Certains laissent avec toute la guerre en payant leur chair. Considérés comme bien meubles et vendus aux enchères. Ils préchèrent notre asservissement du haut de leur chair.
De retour au fond près du radiateur 106.3 FM, on vient de s'écouter Big James, Snuff Music. Voilà, et puis bah on continue tout de suite avec les invités du mouvement. universitaire de résistance.
Voilà, voilà. Et donc, on discutait un petit peu de donc cette cette action pour qui était celle de d'occuper, d'envahir un conseil d'administration, donc afin de provoquer un débat sur donc le press. Et on avait terminé un petit peu donc avec une remarque de Raphaël qui disait que le président avait suivi une ligne assez claire du début de son mandat à la fin de son mandat, qui était que dans les situations de crise ou de contrôle, ou quand il y avait un petit peu des choses qui se passaient sur l'université, la solution c'était un peu donc d'appeler la police. Vendredi dernier, à la suite de cette action, il y a eu deux interpellations. Et donc toi, Ulysse, tu voulais reprendre un petit peu, commenter un petit peu toujours, ce comportement du président.
Voilà. Moi, j'avais un truc qui est très important à souligner, c'est qu'en fait, ce président arrive en fin de mandat dans 2 semaines, et que s'il veut faire passer un petit peu ce presse-là, donc ce presse qui découle directement de la LRU, à laquelle on s'est opposé, pour laquelle était l'UNEF d'ailleurs, qui a réélu l'UNEF ce président-là d'ailleurs, et qui n'est pas dans le mouvement qu'on est en train de monter en ce moment. Et donc ce presse va mettre en avant, pour beaucoup de personnes, d'autant plus de compétitivité. Va mettre en place des filières un petit peu d'excellence en regroupant certaines filières et en leur donnant l'opportunité de se délocaliser de nos facs, donc d'emmener peut-être ce qui va tenir plus nos facs en ce moment financièrement, puisque on sait que c'est beaucoup plus difficile en termes de budget pour les facs en banlieue plutôt que les facs parisiennes. Et tout ça dans une démarche un petit peu d'élitisme et de vidage de ce que peut être Paris 8.
Voilà. Et donc, dans ce sens-là, excuse-moi, à un moment donné, ce qui semblait, donc, c'était que, en même temps que donc tu nous avais déjà parlé au tout début donc de cette discussion, du fait que ça allait faire donc centraliser le pouvoir. Donc issu de la fusion entre Paris 8, donc qui est Saint-Denis, et Paris 10, Nanterre. Donc centraliser le pouvoir, oui. et le mettre peut-être dans Paris, va aussi, donc comme tu le disais, engranger des procédures, d'élitisme, de délocalisation de certaines filières.
Ça précise pas que, c'est l'opportunité d'augmenter les frais de scolarité, ce qui a été fait dans beaucoup de facs qui ont participé à des presses dans toute la France, puisque c'est une loi qui a été, une opportunité qui a été donnée par le gouvernement Sarkozy de faire ces instances-là qui regroupent des facs, et quelques facs en font depuis quelques années déjà.
Voilà, en fait, là, on comprend bien que on pense la gestion de l'université en termes managérial, en termes d'entreprise, et on comprend bien que ça rentre aussi dans une logique un peu plus large. Tu viens de dire ce que vient de faire le dernier gouvernement en place, ça y a beaucoup participé, et puis le discours aussi autour de ça qui s'est décomplexé. Donc on comprend bien aussi que ce pôle de recherche sur l'enseignement supérieur, pour bien le redire une dernière fois, c'est la mise en compétition de plein de domaines à l'intérieur de la fac, et en fin de compte sans consultation véritable avec des étudiants organisés ou pas, et même visiblement des élus, quoi.
Voilà, on vide la fac de ce qui peut l'apporter, de ce qu'il a construit. On donne d'autant plus de pouvoir aux personnalités extérieures, d'autant moins aux représentants, alors que déjà nous, le mur, on met pas mal en cause les instances démocratiques de l'université. Et ses représentants d'ailleurs, et leurs nombreux usages non démocratiques durant les élections ou durant les mandats. Et donc on s'oppose à tout le mouvement de l'université en ce moment, et ça découle de la LRU.
On est dans la ligne directe un petit peu déjà de quelque chose qui était dénoncé avant et autour de quel il y a déjà eu des luttes. Donc c'est un peu la continuité au niveau concret. Des applications de cette loi-là, c'est un petit peu la continuité de cette lutte-là aussi. Et donc, dans ce sens-là, c'est pas, il n'y a pas juste une action qui a été faite vendredi. À Paris 8, il y a un mouvement un petit peu qui commence. En tout cas, il y a des mobilisations ponctuelles qui se produisent d'ailleurs depuis vendredi, dont aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ?
Voilà, donc tout ça a créé une certaine effervescence. Il y a eu une sorte de buzz. Voilà, internet, les mailing lists, tout le monde s'est un petit peu emparé de tout ça et tout le monde est d'accord sur le fait que c'est une aberration. Les images ont bien tourné, on vous invite encore à les faire tourner. Et oui, et donc lundi, directement, on s'est donné rendez-vous à 8h30 du matin. Il y a déjà un track qui avait été produit de toute façon le soir même, un track qui n'était même pas signé. On l'a tous dit fait, on était plein lundi matin, on a eu plein de coups de fil, il y a déjà plein de gens qui étaient au courant. On a fait une AG, on a voté la grève à l'unanimité.
Le lundi
okay. Même, directement. Mm-hmm. Et il y a eu une réaction très positive de la part des étudiants auprès de qui on a dit fait. D'ailleurs, il faut dire qu'après les interpellations, c'est parti en débrayage sauvage, en manif sauvage dans la fac. Et il y a tous les étudiants, pas tous, mais il y a eu une forte proportion d'étudiants qui ont suivi le mouvement et qui sont venus et qui se sont sentis concernés et agressés par ça, par cette présence policière. Et lundi, on est parti à P10, à un peu plus d'une vingtaine. On est parti
donc
en équipe.
Nanterre.
Voilà, P10, à Nanterre, pardon. Pour aller faire un petit peu une petite connexion entre fac banlieusarde. Et c'était l'ORCEA. Donc pour eux, ils votaient les statuts qu'avait voté notre président le vendredi, le jour de ces événements policiers à l'université. Qu'avait voté ce président finalement. D'ailleurs, je vais revenir dessus, puisque pendant ce CA, le CA, c'est le conseil d'administration. Donc c'est vraiment l'instance qui a vraiment du pouvoir à l'université. Il y en a deux autres, mais qui en ont beaucoup moins, qui ont été vidés de ce pouvoir-là, d'ailleurs, pour que le président en ait d'autant plus. Et donc ça a été finalement voté à Paris 8 avec un quorum qui va être remis en question là dans un tribunal administratif. Il y a des profs, des représentants qui n'ont pas été convoqués. Il y a eu six dérogations qui ont été transmises par fax de personnalités extérieures, donc qui sont directement d'accord avec la politique de la présidence. Et voilà. Et donc on allait à P10 voir un petit peu comment se passait leur conseil d'administration qui était gardé par une rangée d'hommes de la sécurité. Habillés comme des policiers, d'ailleurs, là-bas. On y allait, on a parlé avec eux, on a échangé avec eux, ils étaient une vingtaine. On a pu faire rentrer trois représentants pour porter notre message, pour dire un petit peu ce qui s'était passé à Paris 8 et surtout pour souligner ce que j'ai souligné tout à l'heure, l'opportunisme de notre président qui veut juste faire passer ça en catimini, sans aucun débat, juste pour pouvoir être président de ces deux facs-là, plus que président de ce presse, et avoir tous ses moyens et d'autant plus des réseaux à disposition, donc d'autant plus de pouvoir.
En catimini ou par la force, apparemment, quand même.
Ouais, voilà. Mais en fait, c'est par la force, mais des petites sorties en catimini et des petites réunions en cachette, quoi. Et donc, on est parti à P10. Et finalement, ce qu'on a su, c'est que ils avaient voté les statuts. Et voilà. Et donc, alors que tous les organismes, enfin, pas tous les organismes d'ailleurs, non, puisque l'UNEF, nous, dans nos deux conseils, le conseil scientifique et le conseil des études de la vie universitaire, le CS et le CVU, ils ont voté pour. Après, ils se sont présentés en AG, d'ailleurs. Voilà le culot. Et voilà. Donc ça, c'est pour la journée de lundi. On est revenu, on a porté le message. Il y a déjà plein de choses qui ont été faites à l'université, de l'affichage. Il y a plein de réseaux. On a vu plein de nouvelles têtes qui ont été mobilisées.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ce matin, il y a encore eu plein de gens pour la diff de tract. Donc on continue les appels à témoignages pour continuer les petits montages. On vous invite toujours à voir les montages. Il y a des pages de blog aussi, d'ailleurs, où il y a des témoignages. Le blog, il s'appelle canardp8.blogspot.com. Voilà, on rassemble des documents. On a fait une AG aujourd'hui. Sincèrement, c'était un franc succès. Ça faisait chaud au cœur. On a récolté pas mal d'argent pour les frais d'avocat parce qu'on le répète encore. Il y a eu... on ne sait pas encore où ça en est, mais il y a eu des débuts de procédure de
judiciaire, de poursuite.
Pour violence volontaire aggravée. Un franc succès, cette Assemblée Générale. 500 personnes à peu près. Il y a eu pas mal de médias. Bon, le retour médiatique après, on s'y attendait un peu. Hein, Libération ou la dépêche AFP s'est achetée directement. Après, y a des trucs plus intéressants. Nos enseignants ont eu une tribune dans Le Monde, d'ailleurs. Ils ne soulignent pas spécialement qu'il y a eu des interpellations étudiantes et ils ne se prononcent pas sur ça.
Comme par hasard.
Pourquoi ? Et voilà. Et donc, on continue à faire ça avec nous, notre mouvement autonome. Tout à l'heure, on est parti à la présidence. On l'a occupé. Pascal Benzac était encore enfermé derrière son sas de sécurité. Le même sas dont il avait précisé qu'il ne fermerait jamais les portes en tout début de mandat. C'est intéressant à souligner aussi. Et on a créé des commissions de track, de création, de, de, voilà, d'écriture, okay. d'affichage, d'action. Et on s'organise petit à petit, on essaie de faire les liens, on est là sur le terrain et ça continue.
Et d'ailleurs, dans ce sens-là, vous avez quand même une petite annonce à nous faire, a priori, pour la journée de demain. Il va se passer, il y a une initiative demain, sympathique.
Voilà, demain à Paris 8, il y a la journée de la presse. Et
Vas-y. ouais, donc demain, c'est, ça n'a pas directement de lien avec ce qui s'est passé à la fac, mais il va y avoir beaucoup de discussions et
on pourra discuter de ça justement.
Sur ce qui s'est passé vendredi, et l'intervention policière à la fac de Saint-Denis. Et donc demain, c'est une journée de la presse libre et participative. C'est organisé par le journal L'Autrement, qui est autoproduit, autodiffusé, sans pub et sans patron. Et donc, c'est soutenu par le MUR, le Mouvement Universitaire de Résistance, dont vous faites partie. Et donc, je donne vite fait le programme. À 15h, il y a la c'est de 15h à 22h. Donc, à 15h, il y a une projection d'un film de Pierre Karl, en gros, sur la construction médiatique, l'entente entre les médias et les candidats à la présidentielle, notamment Hollande et DSK. Comment ils ont été mis en scène pour pouvoir être élus. À 16h30, il y a une table ronde et un débat sur la presse libre et la critique des médias. Quelle alternative aux médias dominants ? Donc avec des gens du journal L'Autrement qui organisent avec le journal Article 11, Zélium, des gens de Paris, Fréquence Paris Pluriel, qui seront là, etc. etc.
On y sera peut-être, donc avis à ceux que ça intéresse, les auditeurs courageux, venez à Paris 8 Saint-Denis demain.
Et donc après, il y aura des ateliers d'écriture et à 19h, il y aura une bouffe et un concert, donc avec notamment Ursa Major et Killa Biz, qui sont deux collectifs de rappeurs de Saint-Denis et du 93. Naïssam Jalal, c'est du jazz internationaliste. Il y aura Première Ligne, pareil, qui est un groupe de rap du 93. Et il y aura Les Perfectos, c'est du rock and blues. Et voilà, c'est le concert, il se termine à 22h. Et il y a plus d'infos sur le site de L'Autrement, www.l'autrement93.over-blog.com. Voilà. Et je sais pas, il y a peut-être d'autres rendez-vous aussi par rapport à la lutte sur Saint-Denis.
Bah, je crois qu'on va, clairement, d'ailleurs, juste pour bien terminer et tout, vous allez peut-être nous donner les motions un peu qu'on...
La motion que notre Assemblée Générale
voilà, que vous avez pris aujourd'hui.
Voilà, alors notre motion, en gros, je ne vais pas vous la lire, je vais vous la résumer en quelques points. En gros, on demande la démission du président dans les termes les plus brefs, voire immédiatement. Malgré que son mandat arrive à son terme dans quelques semaines, on veut qu'il parte tout de suite. On ne veut pas lui laisser l'opportunité d'être le président du PRESS. On demande l'arrêt des poursuites des étudiants immédiates. Et on demande surtout que les nouveaux élus, puisqu'il y a eu des élections il y a quelques semaines, prennent les décisions et qu'on laisse pas des assemblées qui n'ont plus aucune légitimité, puisqu'elles arrivent en fin de mandat, prendre des décisions très importantes qui vont concerner les décennies à venir de notre université et changer son visage et qui peuvent potentiellement être très très dangereuses.
Ben voilà, ben sur ce, je crois qu'on a plutôt fait le tour. Bien sûr, nous, on essaiera de vous tenir au... Enfin, on espère ne pas avoir à le faire, mais s'il y a une suite dans les poursuites judiciaires, on vous tiendra au courant. Et puis, bien sûr, on a des initiatives pour le MUR, on sera ravis de vous recevoir. Donc déjà, je vous fais... une grosse dédicace et puis est-ce que vous voulez rajouter un petit truc avant qu'on...
Ouais, en tout cas on est toujours bien au fond près du radateur, hein. Ça fait toujours plaisir d'être invité.
Vas-y, hein, bonne note, galerie, une pause musicale et on revient tout de suite au fond près du radiateur pour la rubrique FAF.
Check it out. This is the master I see. Yeah. I got my nigga Royal Flush.
No doubt.
OC. Yeah. Word up, Brooklyn the Wasteland style. You know what I'm saying? This is right, how we get into it. Hey, yo, right. Man. Come on. What's up?
Hey, yo, master I see. Right. Let's conversate a minute. All right. Before we bark with MCs from New York to Venice.
I said niggas talk shit. It's time to blow the whistle. I move just like a missile. Leave a burnt like gristle.
But the issue ain't a pistol. It's time we come flush. We right. Officialize.
Slicing like knives into guts. I said, and even if it is, we get biz. You kids better know the ultimatum is death for cash flow.
We all king of percussion. Right. Mike and Flush plus me, OC.
I'll make amends out of faggot MC. We
we keep a profile lower than the granite to earth. Play for stakes higher than a nigga's physical worth. We need this money guard. Right. We penetrate through the outskirts.
Hey, yo, time's short. Fuck that flush. Let's motivate.
We need this money guard. We penetrate through the outstates. Time short. Fuck that. Oh, let's motivate.
We need this money guard. We penetrate through the outstates. Time short. Fuck that. Mike,
the fact is down a lot, lacking, can't flip it fat.
Right.
I move for GM while they sleeping on their fucking back. We annually get the record for Mike bullies. You come fully.
Right.
I stand where you standing at and wonder where
I'm increasing the pain to make the rough rap stuck in your thing. Caps your mind relaxed.
Cause I'm playing pleasing like that.
Let's get deeper situations. 25 is what I'm facing with more bodies than Jason. Amazing piece of the nation.
Just be a clear understanding. The pain of collage, y'all. Richer than the diamonds. Rock by Zsa Zsa Gabor. Limelight rappers have a choice in my dominion. Power get blown to oblivion.
Now it's the call of all calls. The first man falling. If he doesn't take this rhyme shit, it's serious. It's brawling. No time for stalling. I'm overhauling till the morning. Count thoughts in order that fluidly drop like water.
Let's set this real life a living. Word up, God. I'm tired of what I see. Motherfuckers wanna vibe like we.
Amphibians trace my trail and I'm nailing inside your skull.
Right?
Can't stop the swelling of an instinctive writer, reciter, or poet. If you need rags to be stitched, we gon' sew.
We need this money, God. We penetrate through the outstates. Time short. Fuck that, Mike. Let's motivate.
We need this money, God. We penetrate through the outstates. Time short. Fuck that. Oh, let's motivate.
We need this money, God.
Right.
We penetrate through the outstates. Time short. Fuck that. Low. Let's motivate.
I'm keeping y'all in a state of suspense for the time that I spent, cause I never paid rent. I'm a real go-getter, a point setter. My only occupation in this world is scooping cheddar. I freelance to take a chance and go gold with my man Mike G, cause it gotta unfold. I got my man OC and my man Royal Flesh. His niggas be sleeping and they never get enough.
Now who's that man? Claim he wanna try these lyrical sharper than a sword from Samurai. I verbally captivate the crowd and shit. Areas I leave blown to bits, fucking with this. It's all about living, expanding, getting your plan to surface off of just the gram until you cover this land. I want it all, picture it, the possibilities is infinite. Chilling splendid while I'm making money off a tenement.
Yeah, men versus many,
men.
Demise in a scheme for this here team is what motherfuckers dream for. Roll forth the light, when I write, I shine. I get a little deeper, but my thoughts like Sinai. The phenomenal winner, out in a career quick. With intellect, from a wordplay slick.
We need this money, God. We penetrate through the outstate. Time short, fuck that. Oh, let's motivate.
We need this money, God.
Right.
We penetrate through the outstate. Time short, fuck that. Low, let's motivate.
We need this money, God.
Right.
We penetrate through the outstate. Time short, fuck that. Mike, we gotta motivate.
Mm.
Goddamn. Oh, man. Hit him up,
no doubt.
Mike G, Royal Flesh, C. Low. How we go?
Golden Nets,
Platinum.
We just going to get this money.
That's why I'm telling
you, you know what I'm saying? Y'all niggas know what I'm saying? That word up making too many crab niggas is walking in now with
too many of that.
I'm not trying to sit back
and get at
these niggas. You know what I'm saying? Niggas might walk around in front all the time and get paid.
Vous êtes bien au fond, près du radiateur. On vient de s'écouter Mike, Geronimo, Royal Flush, et aussi c'était Men versus Many. Et bah, c'est l'heure, hein, je crois. De retour sur Au fond, près du radiateur, 106.3 FM, et tout de suite la rubrique Faf.
Faf.
Qu'est-ce qu'il y a ?
La rubrique Faf.
Je traque les Faf.
I'm ready.
Droite, gauche, même son de client qui sonne faux.
C'est un scandale.
Je traque les Faf.
Pas en uniforme.
Je traque les Faf en costard.
Les partis politiques pire.
Dans la gauche caviar. La droite de la droite au pouvoir.
Délation France aux Français.
Faf.
Faf.
Profit. Corruption.
Faf.
Tu veux mon nom,
au fond, près du radiateur.
Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
Voilà, voilà. Et ce soir, la rubrique Faf concernera donc le traitement des antécédents judiciaires, soit le TAJ, dernier donc décret signé par Monsieur Claude Guéant, ministre de l'Intérieur encore actuellement. Voilà, donc en quoi ça consiste concrètement ? Donc en gros, Claude Guéant, donc le 4 mai, signé un décret d'application de la loi LOPSI 2. Donc je vous rappelle tout de même que LOPSI 2, c'est loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Ce qui est bon, ce qui donne déjà assez bien la tendance et la couleur, quoi. et donc qui créait un nouveau fichier policier. Voilà, parce qu'on n'en avait pas assez. Donc dans ce voilà, on est dans l'émission des fusions. Voilà, donc avant on fusionnait des universités. Là, on fusionne des fichiers policiers et donc on fusionnerait donc d'ici fin 2013 le STIC, donc qui est le système de traitement des infractions constatées. Et donc a pris plus ou moins son homologue voilà chez les gendarmes. Donc le JUDEX, donc système de judiciaire de documentation et d'exploitation. Alors simplement pour vous dire un petit peu l'ampleur de ce fichage.
Voilà, ouais, peut-être que tu vas y revenir, mais c'est important de noter que le STIC, c'est quand même un fichier bien particulier où il y a quand même toutes sortes de personnes qui sont fichées dedans. Et d'ailleurs, la CNIL avait émis des rapports. Il y a de ça, bah, souvent même, hein, elle en émet des rapports sur ces fichiers qui contiennent aussi des noms de gens qui vont simplement porter plainte ou constater une infraction et qui restent dessus, quoi, qui restent sur ce fichier.
Effectivement, ça c'est une des spécificités, mais pas justement seulement du STIC, mais aussi d'ailleurs pour le coup du JUDEX, hein, parce que les gendarmes, on sait tous que hors... zone super urbaine type grosse ville, en gros ils font même le boulot que les flics, quoi, donc c'est le même type de micro-infraction, etc. Mais effectivement, je reviendrai un petit peu plus longuement là-dessus après, simplement quand même pour donner un petit peu la mesure des choses, on est sur approximativement 10 millions de personnes, quoi. Genre, ça, c'est le principe. Donc, on est sur 10 millions de fiches qui contiennent tout un tas de trucs sur 10 millions de gens, voilà, qui donc seraient accessibles selon de nouvelles modalités et donc à tout un tas de gens. Donc, en gros, par contre, spécifiquement, en quoi ça consiste ? Alors, effectivement, donc c'est un fichier qui serait alimenté, fourni de tout un tas de procédures judiciaires, donc que ce soit des crimes, des délits, mais aussi des contraventions, des PV, quoi, de base. Et tout un tas donc d'informations seront dedans. À savoir que ces informations, ce serait pas seulement nom et prénom, voire adresse, comme tu as l'habitude sur ta carte d'identité, ce qui est déjà un certain pas de fait vers l'identification des gens, mais c'est nom, surnom, adresse, sexe, photo. Pour les gens qui auraient donc une fiche un peu spéciale, on ne s'interdit pas d'utiliser des caractères ethnico-raciales, voilà, qui sont d'ailleurs définis par toujours notre même super pote, donc Alain Bauer et tout, qui donc définit 12 types que je vous énumérerai pas parce que ça me gonfle, de critères de typologie, voilà, exactement ethno-raciale, et donc qui seraient utilisés par les logiciels policiers. Et ça, à ce compte-là, ce serait seulement pour les gens qui font vraiment des crimes, etc. Mais qui vérifie et tout. Une fois de plus, effectivement, la CNIL fait des rapports sans cesse et tout. Mais malheureusement, c'est les trois quarts du temps juste pour qu'on puisse citer que la CNIL fait des rapports. Donc c'est quand même un petit peu vide de sens, ai-je envie de dire. Donc à savoir que, bien sûr, ça garde le même problème que ces fichiers en général, c'est-à-dire que ça mêle tout un tas de finalités différentes. C'est-à-dire que c'est pas juste en termes d'infraction ou même de connaissances par les services de police qu'on est dans le fichier, mais c'est aussi ça sera aussi utilisé par tout un tas de gens différents et pour tout un tas de raisons différentes. Donc apparemment, il y a donc ce fameux travail d'investigation contre les criminels multirécidivistes, etc., etc., etc. Mais ça servirait aussi dans des cadres de l'ordre de l'administratif, c'est-à-dire par exemple préalable à des recrutements et à des habilitations pour des emplois, à savoir que ces habilitations pour les emplois, ça, on parle pas seulement des policiers ou même des fonctionnaires, mais c'est aussi des aéroports, c'est aussi c'est tout un tas de métiers différents pour lesquels on a défini qu'il fallait faire des enquêtes administratives. Donc ça veut dire que il y a un panel beaucoup plus grand, voilà, d'utilisation de ce fichier.
Ça veut dire que ce fichier pourra même être dans certains cas consultable par des patrons, donc
En fait, oui, ce sera en fait concrètement, on nous dira que c'est pas consultable par les patrons parce que ce sera sûrement consulté par un centre auquel feront appel les patrons, mais ce sera consulté par les patrons parce que la finalité reste toujours la même. Et donc, comme si tout cela ne suffisait pas, eh bien, donc, bien sûr, ce décret, donc, il paraissait au journal officiel, donc, le 6 mai, hein, voilà, chacun ses déclarations le 6 mai. Et ensuite, on s'est dit, on va y aller un petit peu plus loin, quoi. Et donc, le 8 mai, un nouveau décret sortait, donc, pour fluidifier un petit peu tout ça, parce qu'on vous l'a dit et tout, actuellement, le sécuritaire, on est dans une époque où ce qui compte, c'est d'huiler les rouages parce que les choses sont déjà principalement toutes présentes. Et donc, dans cette volonté de huiler un petit peu tout ça, il y avait donc un nouveau décret qui était donc une des mesures phares hein, de l'OPSI 2, qui est un fichier d'analyse sérielle. Alors là, c'est magnifique. Et donc, il s'agit, ni plus ni moins, donc d'exploiter toutes les données, donc toutes dont dispose l'État et ses services sur un individu. Donc, ça veut dire aussi les données qui peuvent être réclamées à des entreprises. Donc, ça veut dire les données que tu aurais données à ton entreprise quand tu étais salarié. Ça veut dire celles qui sont sur Internet, les communications par email, les sites web qu'on peut consulter, etc., etc. Et donc, ce qui serait super pratique avec ce fichier d'analyse sérielle, ce serait qu'on pourrait exploiter des photos qui permettraient donc l'identification des individus via donc l'empreinte de leur visage. Donc en fait, très calmement et tout, c'était évident, dans le TAJ, il y allait avoir un regroupement des données biométriques comme elles existent déjà. Et donc maintenant, par contre, on passe à un autre pas et tout, qui serait donc de regrouper, enfin une fois que ce sera bien mis en place, des dossiers donc de biométrie faciale à proprement parler, qui seraient donc à terme couplés au réseau national des caméras de surveillance dont l'État dispose. Tout ça, une fois de plus, comme on n'a plus le droit de dire vidéosurveillance apparemment, pour nous protéger, voilà, parce que c'est vidéoprotection. Donc simplement pour la petite remarque de la fin, parce que bien sûr on continuera, si on doit vous en parler, on vous en parlera plus longuement, peut-être dans une autre émission et sans le côté humoristique, parce qu'au fond tout ça nous fait pas vraiment vraiment rire. Pour la petite remarque de fin, à ne jamais oublier qu'un changement de mandat ou de président et tout ce genre de choses, bizarrement ça les met jamais, ça met tout le monde d'accord. Il y a un consensus particulièrement important sur le sécuritaire. Et donc, juste pour la petite date et tout, il faut jamais oublier qu'on est sous le plan Vigipirate depuis 1990. Voilà, donc ça permet des dérogations à la Constitution, parce que c'est ça le principe du plan Vigipirate, c'est un état d'exception qui est un état d'intermédiaire avant l'état d'urgence hein, et l'état de siège, donc on est là-dedans, et que depuis 90 et tout, les différents gouvernements qui se sont succédés ne l'ont jamais mis en cause. Donc on n'est pas particulièrement enthousiaste en se disant que peut-être la gauche qui est au pouvoir là le mettra en cause. On se dit plutôt que sûrement ils vont continuer à l'utiliser et voir même comment ça peut être performant, et que d'ailleurs nous on restera là pour discuter de comment est-ce qu'on peut faire pour s'arranger et sortir de ce pétrin.
Voilà, hein, de toute façon on connaît. Voilà, il reste quelques infos à balancer avant la fin de cette émission. Là, on est un peu dans le speed. Il y a Zéro Hebdo qui va arriver tout de suite après. Il y a quelques rendez-vous quand même.
Ouais, donc il y a un rendez-vous, c'est demain, mercredi 16 mai à 19h. C'est un rendez-vous en fait avec des étudiants québécois qui parleront de la grève étudiante au Québec et de ses débordements, parce que en fait pareil au Québec il y a une loi qui veut augmenter les frais d'inscription, et les étudiants là-bas sont en lutte depuis 3 mois, et donc c'est un échange autour de cette grève et de la répression aussi, parce que pareil il y a eu une affaire en fait du blocage du métro de Montréal à des gens qui ont mis des fumigènes dans le métro à l'heure de pointe. Le métro a été bloqué deux heures à l'heure de pointe, et donc il y a de la répression. On a mis les photos des gens, des suspects dans les journaux, des choses comme ça quoi.
On essaiera d'en parler plus largement très prochainement dans l'émission, en tout cas.
Même il y a un reportage sur Son en lutte aussi si vous voulez l'écouter. Voilà, donc ça se passe demain, mercredi 16 mai 2012 à 19h, c'est au squat de Michetot à Montreuil, c'est 36 rue Girard à Montreuil, métro Croix de Chavaux. Le deuxième rendez-vous, c'est jeudi 17 mai à 19h30, ça se passe à Bagnolet, au local du Rémouleur au 106 rue Victor Hugo. métro Robespierre ou Gallieni. Donc c'est une présentation du numéro 32 du journal anticarcéral L'Envolée qui vient de sortir avec la projection d'un film au début de la soirée qui s'appelle Jour de sortie, réalisé à la maison d'arrêt de Vars par des prisonniers et Fabien Fischer. Donc voilà, L'Envolée, c'est un journal anticarcéral et ils ont une émission sur FPP aussi, c'est le vendredi soir il me semble.
Voilà, vendredi soir 19-20h30, on rappelle qu'ils se partagent le créneau avec Sans Papiers ni Frontières, des infos sur la rétention, les expulsions, la machine à expulser, les luttes qu'il y a autour. Une dernière info aussi, on vous dit qu'il y a toujours le procès en cours jusqu'au 22 mai, donc des 6, le procès antiterroriste donc au TGI de Paris, on vous en a déjà parlé, c'est tous les jours à partir de 13h30 au TGI de Paris. Vous aurez plus d'infos sur infokiosque.net. Nous on se retrouve mardi prochain 19-20h30, le site c'est www.aufondpresduradiateur.fr, l'adresse mail c'est aufondpresduradiateur@no-log.org. on est rediffusé vendredi à 7h. Grosse dédicace à tous les camarades du mur qui étaient présents ce soir, ça faisait plaisir.
Grosse dédicace à Sarah et Tom.
À Tifax, ouais, merci, Stephen hein. aussi qui n'était pas là ce soir. Grosse dédicace à tous ceux qui étaient à la technique, à tout le monde, à Zéro Hebdo, à Mouloud qui est arrivé en cours d'émission, à Paddy qui s'installe pépèrement, tranquillement, Family Beats.
Bon, à Mouloud qui était là depuis le début de l'émission.
Excusez-moi, là c'est le speed. Il y a Cyril aussi là qui arrive, donc on dit.
Big up à tout le monde et à mardi prochain.
Voilà, à toutes.
Au revoir.